Comment fonctionnait le syndicat à l'époque des années 30 et comment on se syndiquait?
Eh bien, en ce qui me concerne, sortant de la campagne, je n'avais entendu parler du syndicat que par mon père, mais qui parlait du syndicat des paysans. Ce n'était pas du tout celui dont on va s'entretenir. Et j'ai donc appris le métier de menuisier-ébéniste en campagne, à Cotent, sur Morges, où mon père m'avait mené sans tellement se soucier de savoir si ça me conviendrait ou pas. On était d'une nombreuse famille, il fallait, à cette époque, on avait plutôt l'habitude de marcher droit sans trop discuter. Bref, ça m'a pas trop mal réussi, puisqu'après 3 ans d'apprentissage, je suis sorti le premier de ma promotion aux examens qui eurent lieu à Lausanne. Et c'est à ce moment-là que je me suis engagé comme ouvrier complet, à temps complet, et j'ai travaillé dans une grande menuiserie lausannoise, aujourd'hui disparue, en qualité d'ouvrier d'établi, mais en peu de jours après mon engagement, le directeur m'a demandé de remplacer ce qu'on appelle le traceur. Le traceur, c'est l'homme qui, dans une menuiserie, dessine ou trace, c'est d'où son nom, trace les bois qu'il manie pour pouvoir être machiné et ensuite assemblé. C'est donc un poste, non pas relativement, mais très important.
Il avait trouvé personne.
Qui
était vos collègues? Il n'avait trouvé personne.
Peut-être, mais il se trouve que le directeur en question était précisément l'expert qui avait fonctionné 2 ou 3 mois auparavant lors des examens que j'avais assez bien réussi.
Vos collègues étaient suisses ou étrangers?
Si.
Vos collègues étaient suisses ou étrangers?
Tous, presque tous, c'était encore des Suisses à l'époque, je dis encore parce que aujourd'hui ça a bien changé. Et me voilà sacré, si j'ose dire, traceur menuisier, ce qui est intéressant à double titre parce que pour moi ça me sortait de la routine du travail d'établi et puis ensuite ça me donnait une certaine indépendance vis-à-vis soit de mes collègues, soit des contremaîtres qui ne peuvent rien faire sans la vis du tracheur, et puis également, ce qui n'est pas dédaigné, un salaire plus intéressant que celui du simple ouvrier à l'établi.
En somme, une promotion?
Une promotion réelle.
Est-ce que c'était fréquent à l'époque d'avoir des promotions si jeunes?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. J'ai du reste pu m'en rendre compte lorsque, par la suite, côtoyant les ouvriers sur bois de l'ensemble de Lausanne, au syndicat notamment, j'ai rarement rencontré des camarades de mon âge qui exerçaient la spécialité que j'exerçais. C'était donc, je pense qu'il y a eu là une conjonction d'événements du fait que le directeur de l'entreprise me connaissait depuis l'examen et probablement il avait décidé que si je lui tombais sous la patte, pour parler vulgairement, eh bien il savait à qui il avait affaire. Et voilà comment j'ai débuté comme ouvrier et il s'est écoulé quelques jours, très peu de jours, jusqu'on m'a, un vendredi, un de mes camarades de travail m'a dit alors ce soir tu viens à l'assemblée, il y a l'assemblée du syndicat. Je ne savais pas du tout ce que c'était, mais enfin je lui ai promis que j'irais. Je me suis rendu à cette assemblée. Mais ça n'est pas comme aujourd'hui, ça n'était pas comme ça l'est aujourd'hui. Entrer à une assemblée du syndicat, entrer au syndicat, c'était presque une cérémonie. Du reste, je pense que ça se rattache réellement aux cérémonies d'autrefois qui se passaient notamment pour le Tour de France où n'importe qui n'était pas accompagné, il fallait mériter ce titre de compagnie. Chez nous, en Suisse, on ne connaît pas ça, mais enfin, on peut supposer que ce sont des retombées de l'époque. Tant et si bien que...
Vous avez des souvenirs de cette première assemblée ?
Ah oui, bien sûr. J'ai des souvenirs dans ce sens que, d'abord, j'ai dû me faire présenter par deux parrains à l'assemblée. Et pendant que mes parrains exerçaient leur honorable fonction en ma faveur, j'attendais debout derrière la porte au corridor. Et à un moment donné, on m'a appelé, on m'a dit, camarade Buffat, tu peux entrer. Et là, le président, qui était un voyou menuisier, bien sûr, m'a dit très solennellement, j'ai dû m'asseoir devant la table du comité, et puis jurer d'être un bon camarade, etc., etc., ce que j'ai fait naturellement. Mais franchement, j'étais ému, et quand je pense à cette petite cérémonie qui accueillait du reste tous les nouveaux qui se présentaient, je regrette un peu qu'aujourd'hui, l'entrée au syndicat est quasi anonyme. On entre au syndicat un peu comme dans un moulin ouvert à tout vent. Mais enfin...
Est-ce qu'on pouvait entrer si on était manœuvre ?
Alors, à l'époque, il s'agissait donc bien du syndicat des menuisiers bénistes, où je suis entré, et il n'aurait pas été question... de pouvoir y entrer si j'avais été manœuvre. Si j'avais été manœuvre sur bois, c'est-à-dire travaillant dans un atelier, oui, mais manœuvre sur un chantier, n'importe, non. Ils avaient leur propre syndicat, comme les plâtriers peintres avaient le leur, les ouvriers parqueteurs, etc. Ce qui fait qu'au fond, le syndicat des musiciens bénistes était limité à la profession, et ce qui touchait de près à la profession, c'est-à-dire des manœuvres. Voilà, nous voilà entrés donc au syndicat, c'était un 20 avril 1928, je m'en souviendrai longtemps, et à cette époque, le syndicat avait une activité beaucoup, assez différente de celle d'aujourd'hui. Par exemple, on se réunissait tous les 15 jours le soir de paye. Ça se passait le vendredi.
Où ça ?
Le vendredi soir. Et on avait fixé un chiffre de participants minimum, sans quoi l'assemblée n'était pas valable. Et je ne me souviens pas qu'on ait annulé une assemblée pour manque de participation, parce que c'était impensable. Et puis, assez rapidement, il a fallu, les 2 ou 3 mois après mon entrée au syndicat, il a fallu un secrétaire au comité, mais surtout, il fallait un désigné. Je m'explique. Le mot désigné veut dire le représentant du syndicat dans l'atelier ou l'usine où il travaille et où il perçoit les cotisations. Donc c'est en fait le caissier, non pas le caissier de l'entreprise, mais c'est un sous-caissier travaillant dans l'entreprise. Et il y avait autant de désignés qu'il y avait de menuiserie et bénisterie. Ça m'a intéressé, bien sûr. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, j'ai été désigné comme délégué au comité de la section de Lausanne, section qui réunissait une dizaine de syndicats d'industrie. Comme je l'ai déjà dit, le principal syndicat était celui des maçons de manœuvre, maçons terrassiers de manœuvre. L'autre était le syndicat des plâtriers et des peintres, le syndicat des ouvriers sur bois, celui des marqueteurs, celui des tailleurs de pierre. Bref, toute l'activité du bâtiment, l'industrie du bâtiment, était représentée dans ces syndicats qui ensemble forment toujours aujourd'hui la section de Lausanne comme on trouve la même structure à Genève.
Et ça veut dire aussi que vous aviez déjà le journal L'Ouvrier ?
Oui. Et à cette époque, on percevait donc notre journal hebdomadaire, comme maintenant, et chacun était appelé, pouvait faire sa petite chronique s'il y avait lieu, le rédacteur de l'époque se chargeant de trier les chroniques pouvant intéresser beaucoup de camarades, de celles qui avaient un caractère trop personnel.
Vous pouvez dire votre première impression quand vous avez lu L'Ouvrier, les articles de Genève aussi. Vous rappelez vos premières impressions ?
Eh bien, mes premières impressions, c'est que ça sortait de l'ordinaire. À l'époque, surtout, c'était Lucien Tronchet qui écrivait la chronique genevoise dans L'Ouvrier, c'est le nom de notre journal, et je pense que ces chroniques étaient lues bien au-delà des frontières cantonales genevoises, tellement elles reflétaient le sens, les aspirations ouvrières que rapidement, j'imagine que non seulement à Lausanne, mais même dans le fond du Valais, enfin partout où on parle français et où on recevait l'ouvrier, j'imagine que les lectures, les chroniques écrites par Lucien Tronchet devaient être parmi les premières qui étaient lues, avant souvent les chroniques locales. C'est dire que lorsqu'après 3 ans, de travail dans cette menuiserie dont je vous parle, il m'est arrivé un événement, c'est que j'ai eu l'occasion d'aller travailler à Genève, précisément dans ma spécialité de traceur. Mais auparavant, avant de débarquer à Genève, je veux tout de même vous apporter une petite contribution sur l'état d'esprit qui régnait dans notre syndicat à Lausanne. Le syndicat des ouvriers sur bois auquel je venais d'adhérer a été créé en 1852. C'est après le syndicat des typographes, le syndicat le plus ancien de la place de Lausanne. Du reste, cette ancienneté du syndicat des ouvriers sur bois, on la retrouve dans plusieurs endroits de Suisse. Pour quelles raisons, m'a-t-on demandé ? Est-ce que on parle tellement des ouvriers sur bois comme des gars qui ont eu leur syndicat il y a bien longtemps et pas les autres ? Il y a cela une explication bien simple, c'est que le travail de l'ouvrier sur bois est relativement stable. Il travaille dans un atelier et on connaît les ouvriers sur bois qui ont passé leur vie entière dans le même atelier. Et puis s'ils ont changé une fois ou deux, selon les circonstances de leur vie, mais c'est assez rare. Mais prenez un maçon. À l'époque, un maçon était engagé pour travailler dans un chantier, mais une fois le chantier terminé, eh bien, il devait chercher une autre entreprise, et souvent, ça l'amenait à quitter l'endroit où il était pour commencer son travail dans le monde. une autre région à 10 km, à 20, à 60 km. Et alors, c'est ces coupures d'occupation qui font que il n'y a pas eu une suite d'activités, d'actions syndicales dans ces métiers, maçon, tailleur de pierre, plâtrier, peintre, carreleur, etc., comme il y en a eu chez les menuisiers. Chez les menuisiers, un syndicat des menuisiers pouvait se payer le luxe d'avoir un comité quasi éternel, tandis que ce n'était pas possible dans un autre syndicat pour les raisons que je viens de vous expliquer. Je tiens à préciser ça pour éviter que l'on croie que les ouvriers sur bois dont j'étais étaient des surhommes, qu'ils étaient les seuls à savoir mener un syndicat et le maintenir en vie. Ce n'est pas du tout ça, ce sont les circonstances même du travail qui font qu'il n'y a plus de stabilité, et on trouve ça partout, je vous dis, on trouve plus de stabilité chez les ouvriers sur bois qu'on en trouve dans les autres métiers du bâtiment. À cela, j'ajouterais une ou deux petites anecdotes. Par exemple, dans un atelier, précisément, dans cette menuiserie lausannoise où j'ai fait mes débuts, un vieux machiniste s'est approché de moi le troisième jour pour me demander si je chiquais. Bien entendu, moi, jeune homme, je viens aujourd'hui, la question. Chiquer. Ah, mais tu dois chiquer parce que si tu veux des nôtres. Alors, il m'a donné une petite pincée de tabac que j'ai mis dans la bouche avec davantage de goût que de plaisir. Mais enfin, je me suis rendu compte que c'était un acte sérieux. Et effectivement, au bout de 10 minutes, 4 heures, il est vérifié, j'avais craché ma chine, à ce moment-là, il m'a autorisé à la craquer.